Les podcasts d'AFDS.TV. Les chroniques d'Aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Série Crédios, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse.
Il y a quand même un genre télévisuel et au cinéma aussi qui a déjà un pied dans le Crédios et c'est le péplum.
Et là, vous allez voir, on y a de bien et en plein. Des grandes maisons ocres, des esclaves qui agitent des feuilles pour faire du vent, des robes drapées, des gladiateurs enveloppés dans leurs filets. Ouais! Un péplum. Vous me direz le titre de la mini-série, Pompéi indique clairement le genre. Faux, les créateurs auraient pu développer une fiction historique à la Rome. Mais non, on est bel et bien devant le genre le plus kitsch jamais inventé en audiovisuel et on n'est pas déçu. Entre approximations historiques, costumes de pacotille, décors limités, grosses ficelles scénaristiques et effets pyrotechniques low cost, je ne sais où donner de la tête. La séquence d'ouverture est déjà emblématique. Nous sommes à Naples aujourd'hui dans un groupe de touristes qui admirent le Vésuve depuis un point panoramique et la terre tremble. Enfin, le caméraman est pris de hoquet, mais on fait semblant qu'on n'a rien vu. Ouh, que c'est menaçant. D'ailleurs, tout le monde panique, remonte dans le bus et les voitures démarrent en trombe. Genre, on sera plus à l'abri sur l'autoroute, ben voyons. Cut, on se retrouve à Skopje, en Macédoine, avec Harold Mann, volcanologue, qui constate une activité anormale sur un cratère. Oh oh, mais que se passe-t-il si tous les cratères européens s'agitent en même temps? Ça ressemble furieusement à un début de film catastrophe, non? Oui, mais alors un film catastrophe bavard où la moitié des phrases ne sert à rien. Par exemple, le scientifique déclare qu'il y a une activité intense, gazeuse, conséquente. Intense et conséquente dans la même tirade, c'est que ça doit vraiment être grave. La séquence commence par une déclaration de son assistant qui établit qu'ils ont décidé de partir rapidement, mais juste après, le scientifique semble avoir décidé qu'ils allaient prendre quelques mesures. Courageusement, il décide d'y aller et son assistant est d'accord. « Oui, oui, vas-y », lui dit-il. Deux secondes plus tard, ils y vont pourtant ensemble. La dernière phrase de l'assistant tombe aussi à plat quand il se dit fatigué. « Je ne résiste pas à vous laisser profiter de ce moment tout en sobriété dialoguée.
Hé, hey, Harold, barre-nous d'ici.
Harold, tu m'entends? Harold?
Oui, je te reçois 5 sur 5.
Harold, comment ça se présente sur place?
Il y a une intense activité gazeuse conséquente, presque anormale pour ce cratère. Je vais prélever un peu de CO2 pour l'analyser.
Très bien, mais il vaut mieux que tu te dépêches, c'est déjà un peu tard.
Ça devrait aller. Pedro, j'y vais.
Ok. Vas-y.
D'accord, Pedro. Reste près de moi.
Entendu.
Allons-y. On doit s'approcher d'une fumerole pour prendre des mesures.
Ah, je commence à fatiguer.
Harold, tu as fini les tests géophysiques? Il faut que tu rentres au camp.
Oui, d'accord, entendu.
Il n'y a pas que les phrases qui ne mènent nulle part. Juste après avoir pris les mesures, Pedro, l'assistant, glisse « Tada !» Musique angoissante. Pourtant, il ne dérape que d'un mètre sur une pente relativement douce, ce qui ne l'empêche pas de se demander s'il ne s'est pas cassé la jambe. Heureusement, il marche presque sans boiter et il ressort du cratère. Pourquoi ce suspense à 2 centimes? Pour rien. Sur ces entrefaits, un hélicoptère débarque, inconnu, deux hommes en descendent, habillés comme les Men in Black. Ce sont des agents du gouvernement italien, on n'en saura pas plus. Il demande à Harold de les suivre, ce qu'il fait sans poser de questions, sans vérifier les accréditations des deux gars, sans s'inquiéter de son matériel et de son propre moyen de transport, car il n'est probablement pas arrivé là à pied. Toute la séquence ne sert pas vraiment à grand chose non plus, à part établir le fait qu'Harold est un volcanologue. En fait, on n'est pas du tout à deux doigts de la catastrophe continentale, les volcans ne se réveillent pas du tout, ni à Naples, ni à Skopje, et cette petite tension autour de l'activité gazière intense et conséquente n'est jamais réutilisée dans le film. Ça commence bien donc. Après 6 minutes de film, on entre dans le vif du sujet. Flashback, nous voici à Pompéi en 79 après Jésus-Christ et les producteurs ne nous épargnent pas grand-chose. On a des personnages stéréotypés, l'esclave trop intelligente pour être esclave, l'esclave trop belle pour être esclave, le consul trop méchant, la sœur du consul trop perverse, le vendeur d'esclaves trop cynique, le gladiateur trop héroïque et surtout trop invincible. On a des intrigues courues d'avance, le gladiateur qui tombe amoureux de l'esclave trop intelligente, mais la sœur du consul le veut juste pour sa consommation personnelle, le consul qui tombe amoureux de la belle esclave qui ne l'aime pas, la princesse qui tombe amoureuse d'un esclave parce qu'on est tous des êtres humains avant tout, le devin aveugle, l'entraîneur de gladiateurs plus humain que prévu. On a aussi les passages obligés, le gladiateur rebelle qui se fait fouetter mais qui n'a pas de marque, la scène de banquet romain où on mange du raisin, la scène de combat de gladiateurs sans hémoglobine ajoutée, la scène sur le forum où on prédit la catastrophe, la scène de combat entre le méchant et le héros et la scène de panique parce qu'il pleut des cendres. Scène qu'on subit à intervalles réguliers pendant facilement 1h30 car il prend du temps pour exploser le Vésuve. Et à chaque fois, on a droit à la même musique grandiloquente et péplumesque que l'on doit à un certain Giovanni Bacalov. N'est pas Sergio Leone qui veut. Mais n'allez pas croire que Pompéi n'innove pas. D'abord, on croise l'histoire de l'éruption avec la persécution des chrétiens, de manière peu subtile même. En gros, on emprisonne les chrétiens car le consul pense qu'ils complotent contre Rome et au moment où on va les crucifier, bam, le Vésuve se réveille. On remballe les croix, quand le volcan s'est calmé, on reprend les exécutions et rebam, le Vésuve se re-réveille et cette fois pour de bon. Puis on établit un lien entre les amoureux de l'Antiquité et ceux d'aujourd'hui. Lien de nouveau assez léger, sinon ce ne serait pas drôle. Le volcanologue Harold Mann n'est pas le plus fin des types. Après 2 secondes, il remarque déjà qu'il ne savait pas que le professeur Angeli avait une aussi jolie assistante. Et l'assistante en question roule les yeux bien au ciel pour montrer sa désapprobation. 2 minutes plus tard, déclaration enflammée et lourde de la part du même Harold et même réticence appuyée de Patricia. Une fois qu'on revient en présent après l'histoire de Pompéi, comme par enchantement, ils s'entendent bien. Pourtant, on doit être quelque chose comme 10 minutes plus tard, le temps que l'assistante ait raconté l'histoire. Patricia déclare qu'elle ne l'aimait pas au début, mais qu'elle s'est trompée sur lui. Et le regarde le coucher du soleil sur les ruines de la cité et emballé, c'est pesé. Je vous en passe et des meilleurs, comme ces voix qui servent en même temps pour les clameurs du public et les gémissements des gladiateurs, les regards appuyés entre personnages qui signifient qu'ils sont amoureux, les chrétiens qui parlent de la liberté du royaume de Dieu et qui se font écraser par une statue en feu 2 secondes plus tard, au fait ça brûle les statues de marbre, les gens affolés qui font des allers-retours sur le forum ou qui tournent en rond autour du forum plutôt que de fuir la ville, le gentil gladiateur qui conseille aux chrétiens de ne pas sortir de la prison parce que maintenant l'air est irrespirable mais qui sort quand même, qui parvient à respirer et qui survit, les chrétiens ça ne rate pas meurent écrasés sous les gravats. En même temps, fallait pas attendre l'extase d'une série dont le titre Pompéi s'inscrit à l'écran en lettres romaines orange et qui part en fumée l'instant d'après. On vous aura prévenu.
On a fait le tour de tout ce qu'il y avait de plus cliché, je pense, au niveau du péplum, déjà qui est un cliché en tant que tel. Mais là, je crois que vu ce que tu nous as dit, on est en plein dedans.
Le seul avantage, c'est que ça dure pas longtemps. Vu que c'est une mini-série en 2 épisodes, d'1h30 quand même.
Si on regarde ça sur le ton de la rigolade.
Voilà. Si on regarde ça avec, en sachant que ça va être craignos, ça va. Et alors, c'est très drôle de repérer les seuls 3 décors qu'ils ont et de voir un peu comment ils les agencent. Ça, c'est très rigolo. Parce que cette histoire de gens qui tournent en rond, je peux vous assurer que c'est vrai.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.